Je vais vous présenter aujourd'hui notre conférencier Bruno Bernard, qui est historien spécialiste de l'époque moderne, du 16e au 18e. En gros, il est chargé de cours à l'ULB, où depuis 2003, il dirige le groupe d'études du 18e siècle de l'ULB, ainsi que la revue Études sur le 18e. Par ailleurs, il est spécialiste de l'histoire politique, religieuse et socioculturelle du siècle des Lumières. Et il a collaboré à la rédaction du Dictionnaire général de Voltaire, qui est paru à Paris en 2003. Et avec trois collègues britanniques, il co-dirige actuellement à la Voltaire Foundation de l'Université d'Oxford la première édition scientifique de l'essai sur les mœurs et l'esprit des nations de Voltaire, qui paraîtra en 7 volumes depuis 2009 jusqu'à 2015. Et puis, par ailleurs, il est aussi professeur invité à Ferrare. Alors, vous voyez que pour nous parler de Voltaire, c'était difficile de trouver un plus grand spécialiste, mais il va également nous parler de Montesquieu et particulièrement de la confrontation et de l'absence de confrontation en même temps entre ces deux grands hommes du siècle des Lumières. Je lui laisse immédiatement la parole.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Je remercie encore une fois ma collègue Anne Staquet de m'avoir de nouveau invité à Mons. Je suis venu il y a 3 ans, je pense, pour parler des grandes découvertes. Voilà. Alors aujourd'hui, donc, dans ce cycle sur le siècle des Lumières, j'ai choisi de traiter de Voltaire et de Montesquieu, mais surtout des rapports qu'ils ont entretenus, ou du peu de rapports qu'ils ont entretenus, en tout cas en tant que personne. Ils ont surtout entretenu des rapports intellectuels, je dirais. D'ailleurs, lorsque j'ai préparé cette conférence, j'ai été étonné par le fait qu'il y avait finalement assez peu de choses sur ce sujet. On doit chercher pour trouver quels ont été les rapports entre Voltaire et Montesquieu. Il n'y a pas, à ma connaissance, pas d'article qui ait été consacré spécifiquement à cela. Par contre, on trouve évidemment dans le dictionnaire Voltaire dont Anne vient de parler une notice sur Montesquieu, et on trouve dans un dictionnaire de Montesquieu, mais qui est uniquement sur Internet, je crois que ça s'appelle Dictionnaire électronique de Montesquieu, une notice sur Voltaire. Point de départ, mais évidemment, il faut plus que ça pour faire une conférence d'1h15, et je ne me suis pas uniquement basé, vous en doutez, sur ces deux notices de dictionnaire qui font l'équivalent d'une page et demie à peu près chacune. Bien, donc on sait que Voltaire et Montesquieu ont eu relativement peu de rapports, en tout cas des rapports personnels, vous allez voir que c'est même assez stupéfiant. Alors, un certain nombre de choses peuvent l'expliquer, je vais entrer dans le détail. Ce qui est certain, c'est qu'ils sont, j'ai indiqué les dates, comme ça vous avez une idée de leurs âges respectifs, donc Voltaire a 5 ans de moins que Montesquieu, mais ils sont de la même génération. Contrairement à ce qu'on peut imaginer au départ, puisque le hasard de la vie a fait que Montesquieu est mort 23 ans avant Voltaire. C'est ça, en partie, qui explique aussi probablement le fait que leur confrontation a été relativement limitée, parce que Montesquieu n'a pas eu, de ce fait, l'occasion de connaître celui qu'on pourrait appeler le grand Voltaire d'après 55, des années 60 à 78, puisqu'il est mort en 1778, qui est le Voltaire que vous connaissez peut-être le mieux, c'est-à-dire le Voltaire des combats, si je peux dire, hein, les combats pour la tolérance, etc., les combats contre eux, ce qu'il appelait l'infâme, c'est-à-dire l'Église catholique, se passent essentiellement dans les années 60 et 70. Et de ce fait-là, Montesquieu n'est pas confronté du tout à cette période. Et quand Voltaire s'intéresse aux œuvres de Montesquieu, c'est presque à la fin de la vie de Montesquieu, puisque Montesquieu a publié en 1748, son Esprit des lois, dont je vais vous parler dans un instant, mais il meurt 7 ans après. Et le temps qu'on en discute, je dirais, Voltaire n'a pas vraiment eu l'occasion d'écrire beaucoup sur cet ouvrage. Il a surtout écrit beaucoup après la mort de Montesquieu, en fait. Donc, il y a un décalage dans le temps et aussi une question de personnalité qui a fait que ces deux personnages se sont peu fréquentés, sinon pas du tout. Ils viennent de milieux, on va le voir, extrêmement différents. Enfin, relativement différent. Montesquieu est plutôt un aristocrate, Voltaire est un fils de notaire, donc un bourgeois. Montesquieu est originaire de la région de Bordeaux. Il est, je vous indiquais un certain nombre de termes un petit peu difficiles pour l'orthographe, puisqu'on ne les connaît pas forcément. Il est baron de la Brède, donc il a un château, effectivement, aux environs de Bordeaux. Et Voltaire, lui, est parisien, fils d'un notaire parisien. Donc deux personnages qui fréquentent au départ des catégories sociales assez opposées. Mais il y a un mais, parce qu'on sait par exemple que Voltaire a été au lycée à Paris, à Louis le Grand, et que là il a rencontré un certain nombre de fils d'aristocrates avec lesquels il s'est particulièrement bien entendu. Donc ça n'explique pas véritablement le fait que Montesquieu et Voltaire ne se soient pas fréquentés. C'est pas parce que Montesquieu était un grand aristocrate et Voltaire un bourgeois qu'ils ne se sont pas fréquentés, puisque Voltaire a eu des amis qui étaient aussi des aristocrates. Il suffit de penser au duc de Richelieu, qui est quand même pas d'une petite famille et qui était une personnalité à laquelle il écrivait très régulièrement et qu'il voyait aussi très souvent. Donc il y a autre chose, et je pense qu'on peut dire, sans avoir de preuves, mais vous allez voir que le peu de confidence qu'on a de l'un sur l'autre montre effectivement qu'on va dans ce sens, qu'il y avait relativement peu de sympathie ou pas de sympathie du tout entre les deux personnages. Alors, je reprends donc l'aspect biographique en deux mots qui est Montesquieu, je l'ai dit, un aristocrate. Il est surtout, du point de vue professionnel, puisqu'il a exercé une profession, mais ça n'a duré qu'à peine 3 ans, magistrat au Parlement de Bordeaux. Alors le Parlement de Bordeaux, c'est un tribunal, j'insiste là-dessus, les parlements français au temps moderne, au XVIIIe siècle en tout cas, sont des tribunaux, ce ne sont pas des assemblées représentatives. Donc il est magistrat, si vous voulez, au Parlement de Bordeaux, il va même en assurer la présidence, ceci de 1714 à 1716, donc à un moment où il est extrêmement jeune, hein. Il a 25 ans, donc on peut dire que bon, c'est un fils à papa en réalité, hein, c'est ça qu'il faut dire, il a eu la place qu'on lui a laissée, en fait son oncle lui a laissé cette place, et il se trouve que cet oncle en question est mort en 1716, donc Montesquieu est là depuis 1714, 2 ans après l'oncle lui laisse un héritage gigantesque, Montesquieu démissionne. Il a en tout et pour tout travaillé un peu moins de 3 ans dans sa vie au Parlement de Bordeaux. Il a choisi, à partir de 1716, de vivre de ses rentes, ce qui était une possibilité qui lui était offerte, et il a consacré le temps qui lui restait, les 40 années qui lui restaient en fait, à 3 choses, à voyager. On va voir qu'il a fait un certain nombre de voyages souvent de 2 ou 3 ans à travers l'Europe, plusieurs fois. Donc, il a été régulièrement absent de France. Il a, le temps où il était en France, il a passé une bonne partie de cette période à Paris, à Paris où il fréquentait essentiellement les salons. Il a été un pilier de salons parisiens, effectivement. Et puis, troisième élément, celui que tout le monde connaît, évidemment, c'est l'écriture. Donc Montesquieu s'est consacré aussi à écrire. Il n'a pas écrit énormément. On peut distinguer 3 grandes œuvres de Montesquieu, essentiellement. Une que vous connaissez peut-être parce que c'est la plus accessible et c'est celle que parfois on étudie encore dans les écoles, les lettres persanes. Donc c'est lettres d'un persan qui vient à Paris et qui raconte à ses compatriotes ce qu'est la vie parisienne, mais évidemment vu par un persan, ce qui permet à Montesquieu de critiquer la vie parisienne ou les mœurs françaises à travers ce persan, donc ceci en 1721. En 1734, 21 les lettres persanes, 1734, les considérations sur les causes. C'est un titre assez long, les considérations sur les causes de la grandeur et de la décadence des Romains. La grandeur des Romains et de leur décadence, mais enfin, peu importe, c'est la même chose. Donc, des considérations sur l'histoire de Rome, si vous voulez, en 1734, et puis en 1748, l'esprit des lois, qui est une espèce de, comment dire, c'est son chef-d'œuvre d'une certaine façon. C'est l'œuvre d'un juriste, qui analyse ou qui pense analyser l'ensemble des législations, surtout au point de vue politique, mais également le droit civil, dans les différentes civilisations. Et ce qu'on retient habituellement de l'esprit des lois, même si ici je caricature un tout petit peu, mais c'est la leçon qu'on en retient la plupart du temps, je simplifie disons, c'est surtout le fait que Montesquieu explique que les lois répondent à un certain esprit, cet esprit étant particulier aux différentes nations, aux différentes civilisations. Il essaye donc d'expliquer à quel point la législation dépend, ou les institutions aussi, dépendent des différentes civilisations et sont liées à ces civilisations. Et là, on verra qu'il y aura un point de désaccord avec Voltaire, puisque Voltaire a une vision plus volontariste et aussi plus universaliste. Il estime que les hommes forment un tout et qu'à travers les civilisations, même s'il nie pas les différences, mais qu'à travers les différentes civilisations, les hommes ont en partie, en tout cas, les mêmes désirs, les mêmes besoins, et que donc il est possible d'atteindre à une certaine universalité, ce qu'on accuse Montesquieu de ne pas accepter, ce qui est peut-être un petit peu exagéré aussi. Alors, un élément qui déjà nous montre peut-être une différence entre Montesquieu et Voltaire, c'est donc que Montesquieu est un parlementaire, donc un magistrat, et que Voltaire déteste les parlements. Il déteste les parlements, ces corps intermédiaires, parce qu'ils sont, effectivement, ils le sont, ils sont corporatistes. Donc, les parlements jouent un rôle d'opposition au souverain, notamment dans la France de cette époque, la France de Louis XV. Les parlements sont fréquemment renvoyés dans leur foyer, je crois, les parlementaires sont renvoyés chez eux, hein, en province, ils sont exilés, comme on disait. Le Parlement est interrompu tout simplement parce qu'il a déplu au roi, il a refusé des décisions que le roi voulait imposer, donc ils sont en conflit régulier avec le souverain. Alors de ce fait-là, ils ont une réputation de résistance à l'arbitraire. Ce que Montesquieu va soutenir dans l'esprit des lois, qui est en fait l'ouvrage qui a mis en place la tripartition entre le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire, avec l'impossibilité pour l'un d'influencer l'autre. C'est une des idées qu'on a retenues de l'esprit des lois aussi, c'est donc la tripartition du pouvoir entre exécutif, législatif et judiciaire. Il est donc persuadé que les parlements, dont il a été un des membres, sont un élément de contre-pouvoir dans la société. Alors, ils le sont effectivement en partie, mais ce que Voltaire n'accepte pas, c'est que les parlements utilisent cette réputation de contre-pouvoir pour défendre en partie, en grande partie même parfois, leurs intérêts propres, puisque je l'ai dit, c'est le cas de Montesquieu, mais c'est le cas de la plupart des parlementaires, ils sont parlementaires, magistrats si vous voulez, de père en fils, tout simplement parce que les charges s'achètent. Il y a ce qu'on appelle la vénalité des offices ou la vénalité des charges, les charges sont achetables. À partir du moment où vous avez une certaine fortune, vous pouvez acheter une charge pour votre fils aîné, par exemple, qui vous succédera, y compris acheter cette charge lorsqu'il est enfant. Et donc, la succession se fait naturellement. Donc, ce sont des cas, c'est une caste. C'est comme ça que Voltaire les considérait. C'est une caste qui maintient surtout son propre pouvoir. Et donc, il estime, si vous voulez, que les parlements abusent le peuple en faisant croire qu'ils sont des défenseurs du peuple contre l'arbitraire, alors qu'en fait, ils défendent surtout leurs propres intérêts, en comptant aussi, chose que probablement vous ne savez pas et qui évidemment aujourd'hui n'existe plus, que la justice est payante et qu'il faut donc payer les juges pour obtenir gain de cause au procès. Donc, il y a aussi un effet, si vous voulez, de corruption possible de ces magistrats. Donc, les magistrats ne sont pas des gens extrêmement respectables à l'époque, en tout cas. Donc, c'est un point qui n'a pas été soulevé entre Voltaire et Montesquieu. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ils se sont jamais écharpés à ce sujet, ni écrits à ce sujet. On le verra, ils se sont jamais écrits, en réalité. Donc, c'est assez stupéfiant, d'ailleurs. Mais donc, il y a une opposition de fait entre les intérêts et les idées de Montesquieu et celles de Voltaire, qui sont relativement à l'opposé sur ce point des parlements. Enfin, on peut dire que Montesquieu est un personnage très intégré dans la société. Il est à la fois, on le verra, il est un petit peu contestataire d'une certaine façon. Il y a des aspects d'ailleurs que Voltaire va beaucoup apprécier, mais il est beaucoup moins marginal, radical, il a une vie beaucoup plus normale et sans problème par rapport à celle de Voltaire qui a été plutôt agitée et difficile et en marge en partie de la société de son temps. Alors passons à Voltaire, en quelques mots, donc le fils de notaire, né en 1694. Il faut quand même se dire que Voltaire n'avait pas en tête, au début du XVIIIe siècle, même dans les années 1710-1720, la carrière qu'il a faite. Voltaire n'était pas destiné à être un philosophe et, si je peux dire, un porte-parole. Il avait pour ambition essentielle d'être un poète et un écrivain de théâtre. Et il s'y est consacré à peu près pendant les 30 premières années ou les 35 premières années de sa vie, avant que lui arrive un certain nombre d'événements qui ont changé sa destinée. Donc l'idée qu'on se fait de Voltaire, c'est a posteriori à partir de ce que Voltaire est devenu par la suite. Mais ça n'était pas écrit d'avant, si je peux dire, dans son curriculum vitae. Il se trouve que Voltaire était un personnage assez impertinent, ça il l'a toujours été par contre, assez remuant, n'aimant pas trop être mal considéré, assez fier, et donc il prenait très vite la mouche et il se fâchait très vite avec pas mal de gens. Il a d'ailleurs eu beaucoup de procès qu'il a tenu à suivre pendant très longtemps, il était extrêmement tenace dans ses procès, et on peut dire assez rancunier même. Donc, ce qui lui est arrivé, c'est un certain nombre d'avatars, d'abord des publications dans lesquelles il se montrait un peu trop libertin du point de vue de ses idées. Quand je dis libertin, c'est liberté de pensée. Hein. C'est pas, le reste peut-être aussi, mais ici je parle uniquement de l'aspect philosophique, si je peux dire. Donc, il se montrait un peu trop irrévérencieux vis-à-vis de la religion, et donc il a fait un ou deux séjours à la Bastille. Pas très long, ni très... il n'est pas offert. En fait, il est assigné à résidence, il a table ouverte et il peut recevoir des amis. Donc, ce n'est pas tout de même la prison telle qu'on peut l'imaginer, et c'est pour quelques semaines à chaque fois. Je crois qu'il y est allé deux fois. Et ce qui lui est arrivé, c'est qu'il s'est fait prendre en grippe par un certain nombre d'aristocrates. Il se fait appeler Voltaire, mais il n'est pas né Voltaire. Il est né François-Marie Arouet, A-R-O-U-E-T, j'aurais dû l'écrire peut-être, Arouet. Et il s'est donné ce nom de Voltaire comme nom de plume. Très beau nom d'ailleurs, assez extraordinaire. Enfin, il y a quelque chose dans Voltaire d'énergique, de sautillant, de frais, qui est assez extraordinaire. Ça fait partie du génie du personnage que d'avoir trouvé ce nom. Donc il s'est donné ce nom de plume et il est introduit assez vite par ses succès de poète, ses succès d'écrivain de théâtre, dans des milieux assez mondains dans lesquels évidemment il fréquente, lui, fils de notaire, ce qui n'est pas rien non plus, hein. Son père est un notaire assez important à Paris. Mais enfin, à l'époque, il y a des distinctions importantes entre aristocrates et bourgeois, et donc il se trouve admis dans des milieux relativement mondains dans lesquels il fréquente effectivement un certain nombre d'aristocrates. Et il lui arrive un événement en 1726, il lui en arrivera d'autres un peu plus tard, en 1727, du même genre d'ailleurs, raconté, et c'est ça qui est amusant, par Montesquieu dans son Spicilège. Je l'ai indiqué, je crois que c'est là-bas. Là où Montesquieu note un certain nombre de faits importants pour lui-même, si je peux dire. Au départ, ça n'est pas un ouvrage destiné à être publié, et puis finalement, il sera publié plus tard. Mais ce sont des notes que Montesquieu prend sur ses impressions. Spicilège de Montesquieu, le 6 février 1726. Le chevalier de Rohan, donc c'est Montesquieu qui parle, vient de faire donner des coups de bâton à Voltaire, qui, il y a quelques jours, trouva mauvais qu'il l'appelât « Monsieur de Voltaire » et lui demanda s'il croyait qu'il eût oublié son nom. Monsieur de Voltaire. Donc, chez l'aristocrate, chevalier de Rohan, c'est une grande famille, c'est une façon de se moquer de lui. Lui faisant remarquer qu'il n'est pas noble, en réalité. Lui donnant ce titre pour s'en moquer, finalement. Ils eurent encore une autre scène dans la loge de la Le Couvreur, donc au théâtre, où Voltaire traita le chevalier avec cette impertinence que l'on dit qu'on lui a donnée et que moi je dis qu'il a acquise. Donc, façon de voir Voltaire qui n'est déjà pas vraiment très sympathique. Il lui dit, donc Voltaire dit au chevalier de Rohan qu'il déshonorait son nom et que lui, il immortalisait le sien. Vous voyez déjà le personnage de Voltaire. Je ne sais pas si c'est vrai, hein. C'est ce que raconte Montesquieu. Ce qu'on a dit à Montesquieu n'était pas là. On lui a raconté ça. Ou en tout cas, il transmet cette chose-là. Le chevalier lui envoya le lendemain, non pas un cartel, comme on disait, pour le provoquer en duel, mais un homme à l'hôtel de Sully où il était. Cet homme l'attira dans la rue, où quatre hommes l'assommèrent, le rouèrent de coups de bâton, jusqu'à ce que le chevalier qui était dans un fiacre les eût fait cesser. Donc le chevalier est dans un fiacre, il regarde, il a donné des ordres pour faire battre Voltaire, pour se venger de l'insulte qui lui a été faite. Et Montesquieu commente, « Personne n'a jamais reçu des coups de bâton avec tant de dignité que Voltaire. » Il y a un ton un peu moqueur qui continue. « Il va partout conter son histoire. » Finalement, il en fait, Voltaire en fait toute une histoire justement pour faire parler de lui, c'est ce qu'il veut nous dire. Voltaire dit qu'on a voulu l'humilier, mais qu'il est monté d'un degré plus haut. Enfin, il promet d'être tout aussi impertinent qu'auparavant. Je n'aime point le procédé du chevalier de Rohan, et il me paraît que les coups de bâton se donnent et ne s'envoient pas. Mais, bon, c'est ambigu, hein, il y a une... À la fois l'attitude du chevalier de Rohan, qui est quand même assez lâche, puisqu'il envoie des gens bastonner Voltaire pendant que lui reste tranquillement à regarder dans son fiacre, lui paraît pas très digne d'un aristocrate. D'un autre côté, la façon dont il parle de Voltaire, c'est impertinence, prétention, on peut le dire, et cette volonté de vouloir se faire plaindre en faisant savoir à tout le monde qu'il a été bastonné par les hommes du chevalier de Rohan. Donc, on ne peut pas dire que la sympathie soit... il ne s'agit pas d'un ami, il ne s'agit pas d'un personnage qui lui est totalement sympathique. On va voir qu'effectivement, ils ne se sont pas fréquentés mais alors qu'ils se sont rencontrés. C'est ça qui est très curieux. Ils se connaissent en effet le seul moment... Il y a deux moments où on est sûr qu'ils se sont vus, en tout et pour tout. Hein, ce sont les deux seuls moments, d'après tout ce que j'ai pu récolter comme témoignage. Ils se sont vus une première fois à l'automne 1725, donc à ce moment-là, Voltaire a une bonne trentaine d'années, et Montesquieu 5 ans de plus, bien sûr, au château de Belesba, je ne sais pas comment on dit, c'est indiqué voilà, ici, château qui appartenait à Madame de Prie, donc ça se trouve entre Étampes et Fontainebleau, au sud de Paris, donc en pleine campagne, si vous voulez, lors de ces fêtes qu'on donnait effectivement dans les campagnes, ces mondanités où il y avait de la musique, du théâtre, etc. On restait souvent une semaine ou deux, hein, c'était pas des week-ends à l'époque, on avait le temps. Et il se trouve que on sait qu'ils étaient là au même moment. Il n'y a pas de témoignage de l'un ou de l'autre disant « Monsieur de Montesquieu était là, Monsieur de Voltaire était là, je l'ai vu, je lui ai parlé », on ne sait pas. Ils se sont sans doute croisés, est-ce qu'ils se sont parlé, on n'en sait rien. On sait qu'ils avaient des fréquentations communes. À Paris, dans les salons, ils se sont sans doute trouvés au même moment dans le même salon, mais ça, on n'en a aucune preuve. Mais on sait qu'ils fréquentaient effectivement parfois les mêmes personnes. Ils ne se sont jamais fréquentés, eux, en tout cas, et ils ne se sont jamais, ce qui est stupéfiant, ils ne se sont jamais écrits. Il n'y a pas une lettre de Voltaire à Montesquieu, alors qu'il y a plus de 20 000 lettres conservées de Voltaire. On en trouve tous les ans quelques-unes, une petite dizaine à peu près tous les ans. Donc on en est, je crois, à 21 000 à peu près aujourd'hui. Alors, il faut dire que Voltaire avait deux secrétaires pendant un moment. Hein, donc, et les lettres, certaines étaient, je ne dis pas que ce sont des emails d'aujourd'hui ou des textos ou des SMS, enfin bon, mais... Il y a des lettres effectivement très courtes. Hein, donc il se peut qu'il y ait 15 lettres dans la journée, mais que ce soit des petits billets. En tout cas, on en a 21 000, pas un à Montesquieu et pas un de Montesquieu. Parce que là-dedans sont comptées les lettres qu'il a reçues aussi. Donc, c'est quand même assez extraordinaire pour un personnage qui écrit pratiquement à tout le monde. On peut dire qu'il y a peu d'hommes des Lumières, ou même de pas des Lumières, d'évêques, d'archevêques, de princes, etc., auxquels Voltaire n'ait pas écrit de son temps. Donc, le fait qu'il ne soit jamais écrit... prouve qu'il n'y a eu aucune sympathie entre eux. Ça, c'est certain. Ça ne peut pas être autre chose, parce que même un hommage pour un livre, lorsque paraît un livre, hein, simplement dire « j'ai lu votre livre », Voltaire l'a fait hypocritement pour des tas de gens, en leur disant « voilà, j'ai lu votre livre, c'est excellent ». Par ailleurs, on sait que le même jour, il écrivait à quelqu'un d'autre en lui disant que c'était nul, etc. Donc voilà, on peut connaître, puisqu'on est dans les coulisses, on sait effectivement tout ce que Voltaire pensait, et il écrivait parfois le contraire aux uns de ce qu'il avait écrit aux autres. Il ne l'a même pas fait pour Montesquieu, et Montesquieu ne l'a pas fait pour lui non plus. Ils se croiseront une deuxième fois, mais aussi très fugitivement, à l'Académie française. Montesquieu a été élu en 1728. Je vous rappelle qu'il a publié ses lettres persanes, donc ce conte persan, enfin en principe. Donc il a été élu pour des raisons à la fois mondaines, hein, venant d'un milieu relativement favorisé, connaissant beaucoup de gens, étant dans les bons salons, parce que les élections se faisaient souvent dans les salons. Enfin, je veux dire, elles se préparaient dans les salons. On faisait campagne pratiquement en allant d'un salon à l'autre, et c'est là que les choses s'étaient pratiquement décidées avant que l'Académie se réunisse. Et les femmes qui tenaient ces salons étaient parfois très, très influentes. Montesquieu est élu en 1728, aussi donc comme l'auteur des lettres persanes. Et voilà ce qu'il dit de Voltaire. On ne sait pas la date. Ça, ce sont des pensées, cet extrait des pensées de Montesquieu, pensées éparses, hein, vous savez, des phrases qu'il avait jetées sur des carnets, comme ça. On n'a aucune idée de la date, mais c'est avant 1746, en tout cas, puisque Voltaire entre à l'Académie en 1746. Donc, vous allez voir ce qu'il dit. « Il serait honteux pour l'Académie que Voltaire en fût. » Bon, c'est pas fini. « Il lui sera quelques jours honteux qu'il n'en ait pas été. » Donc, une vision de Voltaire, à la fois personnage trop impertinent, roi dans les brancards, enfin pas un personnage correct, en même temps un tel talent que l'Académie devrait effectivement le faire entrer dans ses rangs. Mais donc, il y a toujours cette ambiguïté évidente du côté de Montesquieu, même si j'essaye d'expliquer, c'est difficile, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup plus, ce sont quelques phrases qu'on a de Montesquieu sur Voltaire, donc ce qu'il en pensait vraiment, il n'a pas écrit des dizaines de choses. Hein. Donc j'essaye d'interpréter ça, on voit que c'est ambigu en tout cas. Ce qu'on sait, c'est qu'il a voté contre l'élection de Voltaire, qui a échoué deux fois avant d'être élu. On sait qu'au moins une fois, il y avait Marivaux d'un côté et Voltaire de l'autre, et que Montesquieu a voté pour Marivaux. Ce n'était pas un mauvais choix, mais enfin bon, façon de dire qu'après tout, il préférait quand même encore Marivaux à Voltaire. Voltaire est finalement élu en 1746. Montesquieu n'est pas là. Lorsque Voltaire fait son discours de réception à l'Académie, comme vous le savez, ils font tous un discours, Montesquieu est absent. Il y a quand même quelque chose qui montre qu'il n'avait pas vraiment envie de reconnaître cette élection. Et on sait qu'ils n'ont, d'après les PV, comme on dit aujourd'hui, de réunion hein, à l'Académie, on sait qu'ils n'ont été ensemble qu'une seule fois. Montesquieu n'était pas là très souvent. D'abord, il est mort effectivement en 1755. Voltaire, à partir de 1750, était à l'étranger. Il n'est pratiquement jamais revenu. Il n'est pas revenu entre 1750 et 1778 à Paris, pratiquement, ou très peu. Les premières années, un tout petit peu, et puis après, plus du tout. Donc, Voltaire ne pouvait de toute façon plus être là et Montesquieu meurt en 55. Donc en fait, il n'y a que 4 années vraiment où ils auraient pu se croiser. Ils se sont vus pendant ces 4 années qu'une seule fois. Ils se sont trouvés, ou même dans la même salle, disons, une seule fois entre 46 et 1750. Alors, ils ont un point commun, ça c'est certain. C'est une admiration pour l'Angleterre. Et tous les deux y ont été. Rousseau aussi, d'ailleurs, y est allé le seul, finalement, des 4 grands, si je peux dire, qui n'y soit pas allé, c'est Diderot. Mais Voltaire y est allé en 1726 à 28, après la fameuse bastonnade et les ennuis qu'il a eus, on lui a fait comprendre que ça commençait à bien faire et qu'il ferait mieux de s'éloigner s'il ne voulait pas de nouveau être enfermé. Et donc, il a choisi de partir pour l'Angleterre, où il est resté 2 bonnes années. Et qu'il a beaucoup apprécié, vous allez le voir, qu'il écrit l'anglais, je ne dirais pas à la perfection, parce qu'à mon sens, il y a une faute, mais enfin bon, peut-être qu'à l'époque, on s'exprimait comme ça, j'en sais rien, mais ça me paraît bizarre, mais il écrit couramment en anglais toute sa vie, comme en italien d'ailleurs, ce sont les deux langues étrangères qu'il manie. Il connaît l'allemand pour voyager, quand il en a besoin, puisqu'il voyage beaucoup dans les pays germaniques, mais enfin, on ne peut pas dire qu'il parle couramment l'allemand. Tandis que l'anglais et l'italien, certainement, et j'ajoute le latin, qu'on parlait à l'époque dans les collèges, y compris pendant la récréation. Il était interdit de parler une autre langue que le latin. Donc vous imaginez que ces gens, quand ils sont adultes, un texte en latin, ça leur pose absolument aucun... Ils ne parlaient pas le latin classique, j'imagine. Hein. C'était un latin un peu plus facile, mais lorsqu'ils sont devant un texte en latin, ils n'ont aucun problème. Hein. Ce qui ferait peut-être envie aux élèves d'aujourd'hui, avec lesquels on a certaines difficultés parfois lorsqu'on fait du latin. Donc, il est en exil pendant 2 ans en Angleterre. Montesquieu ira, lui, en 1730, lors d'un de ces fameux 3 grands voyages qu'il a fait, celui-ci durant 1728 à 1730. On ne sait pas s'ils se sont croisés, mais en tout cas, au moment où Voltaire rentrait, Montesquieu partait. Ce qu'on sait de façon certaine, c'est que Montesquieu a été initié à la franc-maçonnerie lors de son passage à Londres par l'intermédiaire de Charles Lennox, je vous ai indiqué le nom, qui était duc de Richmond. Et il se trouve qu'on sait que Voltaire a fréquenté le duc de Richmond aussi. Certains disent, mais ça, il n'y a absolument aucune preuve, que Voltaire aurait été initié dès son séjour, donc avant Montesquieu encore, entre 1726 et 28, par l'intermédiaire du duc de Richmond, qui appréciait Voltaire et ses écrits. Il avait notamment, ses filles ont sans arrêt acheté, fait venir tous les ouvrages de Voltaire qui sortaient. C'était vraiment des, comment on dirait aujourd'hui, des fans de Voltaire, les filles du duc de Richmond. Et donc, il est possible que Voltaire ait été initié en franc-maçonnerie à ce moment-là, mais en tout cas, l'initiation officielle et l'entrée officielle de Voltaire en franc-maçonnerie, peut-être qu'il faut le dire, parce que on a toujours une image de Voltaire peut-être un peu caricaturale parfois, c'est quelques semaines avant sa mort à Paris en 1778, lorsqu'il revient pour un triomphe, après pratiquement 25 ans d'absence, et il est fêté partout, il en mourra d'ailleurs, parce que son médecin lui avait déconseillé de partir, il avait 85 ans, donc dans un état relativement faible. Et finalement, il sera fêté, adulé, il dort presque plus, tout le monde se précipite pour le voir, il y a des gens à sa porte sans arrêt, c'est extrêmement fatigant, et il en mourra au bout de, je pense, 1 mois et demi, 2 mois. Et c'est à ce moment-là qu'il entrera officiellement en franc-maçonnerie et qu'il sera initié. Alors, ce qui fait croire à certains qu'il a été initié en Angleterre, c'est qu'il est entré directement au grade de maître. Mais bon... Étant donné que c'était Voltaire, certains disent, bon, on a fait une exception. D'autres disent, non, il était déjà initié. Enfin, bon, je n'en sais rien, en fait, il n'y a personne qui n'en sait rien. Mais enfin, il y a des supputations sur le fait que le duc de Richmond aurait pu le faire entrer en franc-maçonnerie. Alors, que sait-on de l'un sur l'autre? Je vous l'ai dit, de Montesquieu sur Voltaire, on a quelques notes, un point, c'est tout. J'ai cherché dans les correspondances et dans les cahiers et les notes de Montesquieu, ça se résume sur une petite page, pas plus. De Voltaire sur Montesquieu, il y a beaucoup plus. Parce que Voltaire a vécu plus longtemps, mais surtout, il a énormément lu et relu l'esprit des lois surtout. Il a lu aussi les lettres persanes, les considérations sur les Romains, mais c'est surtout l'esprit des lois qu'il a lu plusieurs fois et qu'il a beaucoup critiqué, à la fois critiqué... on va le voir sur les inexactitudes, mais aussi critiquer du point de vue de l'intérêt que ça pouvait avoir. Parfois, il trouvait l'ouvrage globalement très intéressant, de toute façon. Montesquieu sur Voltaire. Je dirais 2 choses. C'est ce que j'ai trouvé dans les différents petits extraits qu'on a de Montesquieu sur Voltaire. 2 éléments sur Nage, essentiellement. Voltaire est superficiel, Voltaire est partisan. Il n'est pas objectif. Alors, 3 petits textes seulement pour le Voltaire superstitiel, mais il n'y a pas grand-chose d'autre. Il y a peut-être 3 lignes en plus de ce que je vais vous lire. Hein. C'est tout. Voltaire, dans les pensées diverses, Voltaire n'est pas beau, il n'est que joli. Il parle de son écriture, bien entendu. Une lettre de Paris au chevalier d'Eddy en 1749. Vous allez voir tout de suite le genre de personnage que Voltaire est pour Montesquieu. Comme on ne parle ici que comédie ou bal, Voltaire, comme on ne parle que de comédie et de bal, Voltaire jouit d'une faveur particulière. Donc Voltaire, on est en 49 pourtant, hein, c'est déjà devenu un philosophe. Il a écrit les lettres philosophiques en revenant d'Angleterre, donc c'est plus un simple poète et un mondain. Eh bien, il le voit encore comme ça. Et puis, lorsque Voltaire doit quitter Berlin, après s'être fâché avec Frédéric II, où il avait été invité par Frédéric II à venir à Berlin, il était membre de son académie, il est resté un an et demi à peu près à Berlin, il l'avait vu plusieurs fois, Frédéric II étant le souverain de Prusse qu'il admirait beaucoup, et puis finalement il se fâche et Voltaire part de façon assez impromptue d'ailleurs, assez rapidement en tout cas. Et ça, la nouvelle se répand à Paris, et Montesquieu écrit à son ami l'abbé de Guascot « Voilà donc Voltaire qui paraît ne pas savoir où reposer sa tête. Le bon esprit vaut mieux que le bel esprit. » Donc, une image de bel esprit, mais pas de bon esprit. Et puis, Voltaire est un partisan, un personnage qui n'est pas objectif. Montesquieu nous dit « Voltaire n'écrira jamais une bonne histoire. » Ce qui est assez... si Voltaire avait lu ça, il aurait sursauté. Il est comme les moines qui n'écrivent pas pour le sujet qu'ils traitent, mais pour la gloire de leur ordre. Entendez, pour la philosophie. Voltaire écrit pour son couvent. Ceci, c'est dans les Pensées diverses. On ne sait pas la date de ceci, mais donc ça date d'avant 1755, en tout cas. Quant à Voltaire, autre extrait d'une lettre à l'abbé de Guascot, dont je vous ai parlé, quant à Voltaire, il a trop d'esprit pour m'entendre. Il écrit ceci en 52, et donc c'est à propos de l'esprit des lois, puisque l'esprit des lois est paru en 48, il y a eu des textes supplémentaires qui sont parus en 50, 51, donc on sait que c'est très probablement à propos de l'esprit des lois. Quant à Voltaire, il a trop d'esprit pour m'entendre. Tous les livres qu'il lit, il les fait. Alors, c'est pas évident à comprendre cette phrase. Tous les livres qu'il lit, il les fait. C'est-à-dire, il les écrit lui-même, en fait. Il croit lire, mais en fait, il réécrit ce qu'il lit. Après quoi, il approuve ou critique ce qu'il a fait. C'est-à-dire, non pas ce que l'auteur a dit, mais ce que Voltaire en a compris ou a bien voulu en comprendre. C'est pas totalement faux. Hein. Je dois dire que, connaissant bien Voltaire, il prend ce qui l'arrange et ce qui l'arrange pas, il le met de côté. Il y a plusieurs exemples de ça, je n'ai pas le temps de développer ici, mais ce n'est pas du tout imaginaire, ceci. Donc, on voit qu'il n'estime pas Voltaire comme auteur sérieux, je dirais. Hein. C'est quelqu'un qui n'est même pas honnête, à la limite, hein, puisque, en fait, il transforme les écrits des autres pour pouvoir ensuite les approuver ou les désapprouver. Alors passons à quelque chose de beaucoup plus substantiel, c'est Voltaire à propos de Montesquieu. Ce qui est drôle, c'est qu'on a les mêmes reproches, enfin en partie. Le reproche qui vient en premier, c'est la superficialité. Donc chacun s'accuse d'être superficiel. On voit le terme sautillant dans plusieurs lettres de Voltaire à ses correspondants à propos de Montesquieu, il est sautillant. Bon, sautillant, ça n'indique quand même pas quelque chose de très sérieux. À propos des considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence en 1734. Voltaire écrit, alors il avait pris l'habitude d'écrire en anglais, est-ce que c'était pour ne pas être compris peut-être, ou par snobisme, ou parce qu'il avait pris l'habitude d'écrire à cet ami Thieriot, qui est un ami de collège, en anglais, et alors il lui dit, ce qu'on dit à propos de cet ouvrage, « They call it the decadence of Montesquieu ». Ils appellent ça la décadence de Montesquieu. It is true, the book is very far from being what he ought to be. Il est vrai que le livre est très loin d'être ce qu'il devrait être. Et ce qu'il, il a mis he, alors qu'aujourd'hui on dirait it ought to be. But yet there are many things in it which deserve to be read. Mais il dit, mais malgré tout, il y a beaucoup de choses dans ce livre qui méritent d'être lues. And that makes me angry with the author for having so lightly treated of so great a matter. Et je suis furieux contre l'auteur, enfin, je traduis, j'exagère peut-être, je suis en colère contre l'auteur pour avoir traité si légèrement d'un sujet si important. Donc, reproche, et il le fera constamment. On retrouve ça jusqu'à sa mort, hein, dans les derniers textes de Voltaire sur l'esprit des lois, c'est toujours ça. Ça n'est pas sérieux, il fait des jeux de mots, il fait de l'esprit. Alors que c'est exactement ce que Montesquieu reproche à Voltaire. Il fait de l'esprit sur des choses aussi sérieuses, mais on ne règle pas ces choses-là avec de l'esprit, dit-il. L'esprit des lois, 1748, il écrit au duc d'Uzès en 1751, 3 ans après la sortie, « J'aurais souhaité que son livre eût été aussi méthodique et aussi vrai qu'il est plein d'esprit et de grandes maximes. Madame du Défant, c'est une des grandes dames qui dirige un des salons la plus connue pratiquement des salonnières parisiennes, grande amie de Voltaire et de beaucoup des philosophes, Madame du Deffand a eu raison d'appeler son livre « De l'esprit sur les lois ». De l'esprit des lois transformé en « De l'esprit sur les lois ». Donc Montesquieu fait de l'esprit à propos des lois. On ne peut mieux, ce me semble, le définir. Donc, reproche de superficialité assez étonnant. Il lui reproche également d'être crédule. C'est le deuxième reproche que j'ai noté. Il y a beaucoup d'exemples, mais je n'en cite qu'un. Il cite un extrait de l'esprit des lois. « Par la loi de Bantam, le roi prend la succession, même la femme, les enfants et la maison. » Et alors, Voltaire le commente. « Pourquoi ce bon roi de Bantam attend-il la mort du chef de famille? Si tout lui appartient, que ne prend-il le père avec la mère? Est-il possible qu'un homme sérieux daigne nous parler si souvent des lois de Bantam, de Macassar, de Bornéo, qu'il répète tant de contes de voyageurs, qui ont débité tant de fables, qui ont pris tant d'abus pour des lois, et qui, sans sortir du comptoir d'un marchand hollandais, ont pénétré dans les palais de tant de princes de l'Asie? » Donc, Montesquieu est crédule par rapport à des récits de voyage. Mais il faut bien dire que Voltaire lui-même, quand il parle de ce qui se passe dans les différentes contrées, dans les différents continents, a les mêmes sources que Montesquieu, pratiquement. Il utilise les mêmes sources. Mais avec, c'est vrai, parfois, un regard beaucoup plus critique. En tout cas, il essaye toujours d'être critique, ce que Montesquieu, effectivement, n'a pas toujours été. Troisième reproche, il part de principes erronés. « Malheureusement, dit-il en 1757 dans une lettre à un ami journaliste, son livre, toujours l'esprit des lois, n'a pour fondement qu'une antithèse qui se trouve fausse. Il dit, et c'est effectivement une des bases de l'esprit des lois, que les monarchies sont établies sur l'honneur et les républiques sur la vertu. » Donc Montesquieu a essayé de classer les régimes, si vous voulez, hein, et d'essayer de trouver qu'est-ce qui faisait que d'un côté on avait une monarchie, de quoi se tient la monarchie et à quoi tient la République. L'honneur d'un côté pour la monarchie, la vertu pour la République. Et pour soutenir ce prétendu, alors c'est un bon mot pour Voltaire, pour soutenir ce prétendu bon mot, la nature de l'honneur, dit-il, est de demander des préférences, des distinctions, etc. L'honneur est donc par la chose même placé dans le gouvernement monarchique. Mais il devait songer que par la chose même, on briguait dans la République romaine la préture, le consulat, des triomphes, des couronnes, des statues. Donc c'est la même chose. L'honneur aussi. Donc l'honneur n'est pas spécifiquement typique de la monarchie. La vénalité des charges maintenant. Et là, vous allez voir qu'il y a une petite pique contre Montesquieu. Je vous ai expliqué donc ce phénomène de vénalité. Que dirons-nous de cette étrange maxime? Il tire ça du livre 5, chapitre 19 de l'Esprit des lois. Il cite Montesquieu, « La vénalité des charges est bonne dans les États monarchiques, parce qu'elle fait faire comme un métier de famille ce qu'on ne voudrait pas entreprendre pour la vertu. » Encore une fois, pour l'honneur, pour... Bon. Oui, dit Voltaire, est-ce Montesquieu qui a écrit ces lignes honteuses? Quoi? Parce que les folies de François Ier avaient dérangé ses finances. C'est comme ça qu'est née la vénalité des charges. Le roi a besoin d'argent. Il a créé des fonctions payantes. Parce que le roi François Ier avait dérangé ses finances, il fallait qu'il vendît à de jeunes ignorants le droit de décider de la fortune, de l'honneur et de la vie des hommes, c'est-à-dire les magistrats. Parfois des gens, effectivement, pas toujours très compétents. Plaignons Montesquieu d'avoir déshonoré son ouvrage par de tels paradoxes. Mais pardonnons-lui. Et là vient le coup d'épée ou le coup d'épingle. Son oncle avait acheté une charge de président en province et il la lui laissa. On retrouve l'homme partout. Nul de nous n'est sans faiblesse. Donc, façon de dire que Montesquieu sert ses propres intérêts en réalité. Donc, les critiques, j'en ai relevé trois, mais il y en a d'autres. Hein, mais ce sont les grands principes, disons, sur lesquels il s'étend un peu à propos de Montesquieu. Il y a tout de même un certain nombre de choses positives. Alors, certains ont trouvé que c'était ironique. J'ai lu ça deux, trois fois. Moi, je n'ai pas trouvé que c'était si ironique que ça. Il dit sans arrêt, Montesquieu pense et fait penser. Parfois même, quand il fait des erreurs, dit-il, il nous entraîne à les vérifier, il nous entraîne dans des choses qui, au bout d'un moment, nous disent, enfin, il y a une contradiction, il y a quelque chose, c'est pas possible. Et donc, on va vérifier. Et donc, Montesquieu, même par ses erreurs, nous fait penser. Donc, il y a peut-être un peu d'ironie, là, mais Montesquieu ne fait pas que des erreurs, tout de même. Voilà ce qu'il écrit à un correspondant, en 1759, « Ce sera à jamais un génie heureux et profond qui pense et fait penser. » Il écrit pratiquement la même chose, d'ailleurs, en 1751 au duc d'Uzès. Deuxième élément, Montesquieu a eu le mérite de dénoncer les instruments du despotisme, de dénoncer les instruments du despotisme et dénoncer les principes de l'état de droit. C'est un terme moderne, ça. Ça c'est moi qui le dis, c'est pas Voltaire, parce que le terme d'état de droit est quelque chose d'assez récent. Voici ce qu'il dit quand il écrit à un avocat du Parlement de Grenoble en 1768. Il a parlé avec courage contre la finance, la prêtraille et le despotisme. Les trois ennemis de l'humanité, d'une certaine façon. Donc les financiers, les prêtres et les despotes. Autre lettre en 59. Son livre devrait être le bréviaire de ceux qui sont appelés à gouverner les autres. Il restera, les folliculaires seront oubliés. Donc il y a vraiment une admiration pour ce livre qui est tout de même une œuvre sur laquelle on va pouvoir se baser effectivement pour discuter et envisager le gouvernement. Dernière citation. Je loue beaucoup son livre. Après l'avoir beaucoup critiqué, il termine en disant, il y a au moins une page de critique, hein, de détails d'ailleurs. Là, il y a une erreur, ça c'est faux, ça c'est pas possible, etc., etc. Toutefois, je loue beaucoup son livre, parce qu'il faut louer la liberté de penser. Cette liberté est un service rendu au genre humain. On notera quand même qu'en 1750, Voltaire a publié, en mai 1750, un pamphlet intitulé « Remerciements sincères à un homme charitable » pour défendre Montesquieu lorsqu'il était attaqué, notamment par une revue tenue par des ecclésiastiques, les Nouvelles Ecclésiastiques. Il a, à ce moment-là, ouvertement pris la défense de Montesquieu dans un de ses fameux pamphlets qui l'ont rendu célèbre par la suite. Et puis, on a des éloges de Montesquieu chez Voltaire. En tout cas, il y a un très long texte, enfin très long, deux bonnes pages, que je ne vais pas vous lire en entier, rassurez-vous, qui se trouve dans le siècle de Louis XIV. Alors, le siècle de Louis XIV, c'est un ouvrage historique de Voltaire, dans lequel il a donc raconté ce qu'il a appelé le siècle de Louis XIV. C'est évidemment pas un siècle, hein, mais il est un des premiers à avoir employé cette expression, désignant une période comme un siècle. Après, il y aura le siècle de Louis XV. Là aussi, c'est la période de Louis XV. Mais le fait de parler de siècle veut dire que c'est une époque. Il a marqué son temps, Louis XIV. Et dans le siècle de Louis XIV, il a ajouté un catalogue des écrivains. Ce catalogue des écrivains, donc, c'est par ordre alphabétique tous les grands écrivains de cette époque, d'une seconde moitié globalement du XVIIe siècle et des premières années du XVIIIe, dans lequel il place Montesquieu en résumant sa carrière. Donc c'est très intéressant parce qu'on voit ce qu'il pense de l'ensemble des œuvres de Montesquieu et du personnage lui-même d'ailleurs. Il donna, à l'âge de 32 ans, les Lettres persanes, ouvrage de plaisanterie, plein de traits qui annoncent un esprit plus solide que son livre. Donc, et ça pourrait s'appliquer à Voltaire, hein, tout à fait. Les contes de Voltaire, c'est la même chose. Hein, on a l'impression d'une légèreté. On peut lire ça au premier degré, entre guillemets. On peut faire lire ça à des enfants de 10 ans, ça les amuse. Évidemment, ils ne comprennent pas la leçon philosophique qu'il y a derrière, ça c'est évident. Mais c'est un peu la même chose. Les Lettres persanes ont les mêmes qualités et on peut penser que Voltaire s'est peut-être inspiré, ou même sans doute s'est inspiré des Lettres persanes pour les contes qui l'ont rendu célèbre et qui, je dirais, un peu malheureusement aujourd'hui, sont devenus pratiquement tout ce que les gens connaissent de Voltaire. Y compris jusqu'à des pataquès assez fabuleux en France avec un... Je ne sais plus comment il s'appelle, Lefebvre, je ne sais plus son prénom, un des... porte-parole de M. Sarkozy qui a dit j'aime beaucoup Zadig et Voltaire. Il n'a pas compris. Bon, enfin, visiblement, il ne sait pas ce que c'est que Zadig, qui est un conte de Voltaire. Bon, moi, je ne l'ai pas entendu dire ça, mais je l'ai lu dans les journaux qu'il avait dit. Bon. Donc, les contes de Voltaire sont ce qui est aujourd'hui le plus connu, et ça vient probablement d'une influence des Lettres persanes. Alors, il continue. Le génie qui règne dans les Lettres persanes, et là, il explique un peu ce qui s'est passé, ouvrit au président de Montesquieu les portes de l'Académie française, quoique l'Académie fût maltraitée dans son livre. Parce qu'effectivement, c'est une critique contre la société française ou parisienne de son temps. Et moi, j'ai eu l'impression qu'il y avait un peu de jalousie dans la façon dont Voltaire en parle. Il en parle à deux reprises dans un autre texte, et c'est le même ton. En même temps, la liberté avec laquelle il parle du gouvernement et des abus de la religion lui attira une exclusion de la part du cardinal de Fleury, qui était à ce moment-là le premier ministre du futur Louis XV. Donc, on l'écarte de l'Académie, on est en 1721, le jeune roi est cornaqué, si je peux dire, par le cardinal de Fleury, qui fait un peu le rôle du cardinal de Mazarin, cardinal de Richelieu, enfin il y en a eu quelques-uns comme ça, et on exclut toute possibilité d'élire Montesquieu à l'Académie. Et puis, voici ce que dit Voltaire, il prit un tour très adroit pour mettre le ministre dans ses intérêts, puisqu'on sait qu'il a été élu, effectivement, en 1728. Il fit faire, en peu de jours, une nouvelle édition de son livre, dans laquelle on retrancha ou on adoucit tout ce qui pouvait être condamné par un cardinal et par un ministre. Il a donc obtenu son élection, dit Voltaire, par une espèce d'hypocrisie, en somme, hein, de soumission à la volonté du souverain, en enlevant de son livre ce qui était le plus dangereux pour se faire élire. Entre nous, on sait que Voltaire a fait des choses du même genre par après. Donc, se moquer de Montesquieu de cette façon, ou essayer d'indiquer que Montesquieu était adroit, mais un petit peu lâche, c'est assez curieux venant de lui. Il donna ensuite, donc je reviens à ce que Voltaire dit de Montesquieu, le traité sur la grandeur et la décadence des Romains, matière usée, effectivement sur Rome, ça, c'était un thème sur lequel on avait beaucoup écrit, qu'il rendit neuve par des réflexions très fines et des peintures très fortes. C'est une histoire politique de l'Empire romain. Il explique simplement ce que c'est, il ne donne pas son avis, mais l'avis est globalement positif. Enfin, on vit son esprit des lois. On lit l'esprit des lois autant pour son plaisir que pour son instruction. Ce livre est écrit avec autant de liberté que les lettres persanes, et cette liberté n'a pas peu servi au succès. Mais le principal mérite de l'esprit des lois est l'amour des lois qui règne dans cet ouvrage. Et on sait que Voltaire était un personnage pour lequel, si vous voulez, le règne de la loi était finalement le sommet, l'aboutissement de tout espoir politique, en somme. Que la loi règne, et la loi seule, et que tout le monde y soit soumis, bien entendu, y compris le souverain. Donc l'amour des lois. Et cet amour des lois est fondé sur l'amour du genre humain. Ce qu'il y a de plus singulier, c'est que l'éloge qu'il fait du gouvernement anglais est ce qui a plus d'avantages en France. Et puis, la vive et piquante ironie qu'on y trouve contre l'Inquisition a charmé tout le monde, hors les inquisiteurs, bien sûr. Ces réflexions presque toujours profondes sont appuyées d'exemples tirés de l'histoire de toutes les nations. Et il se trouve que l'ouvrage que je coédite actuellement à Oxford, donc « L'essai sur les mœurs et l'esprit des nations », titre assez long, qu'on résume souvent dans « L'essai sur les mœurs », est une histoire universelle que Voltaire a écrite, dont on peut penser qu'une partie, bon, il a commencé vers 1740, mais l'ouvrage a commencé à paraître vraiment que dans les années 1750-56, la première édition avouée par Voltaire, parce qu'il y a eu des fuites avant, il y a eu des éditions pirates, si je peux dire, en 1753. Mais donc Voltaire n'a estimé être prêt qu'en 1756 à publier. Je pense que la parution de l'Esprit des lois a été un des éléments qui l'a incité à continuer ce projet qu'il avait au départ, dit-il, fait pour Madame du Châtelet, qui était sa maîtresse, et pour lui-même, et l'a incité à essayer de faire mieux, finalement, que ce qu'a fait Montesquieu. Ça n'est pas une histoire des institutions, mais enfin, on y parle beaucoup d'institutions. On va avoir, en fait, non pas 7, mais 8 volumes. Ça a été actualisé depuis ce que je t'ai envoyé. Ça fera donc 6 fois 8, 48, donc 4800 pages environ. Mais le texte même de Voltaire fait environ 2000 pages. C'est un énorme ouvrage. C'est le plus gros qu'il ait jamais écrit. Et effectivement, il traite de toutes les civilisations. Il traite de tous les aspects de l'histoire, de la civilisation et des institutions, du droit aussi, y compris le droit civil. Donc, d'une certaine façon, il concurrence en partie l'esprit des lois de Montesquieu. Je pense que vraiment, il y a dans ses motivations une partie de cette volonté de faire en mieux ce que Montesquieu avait tenté de faire en plus complet. Aussi, on sait qu'il a voulu concurrencer Bossuet, qui avait écrit une histoire universelle, qui s'arrêtait pratiquement à l'époque de Charlemagne, et donc Voltaire a presque commencé la sienne à l'époque de Charlemagne. Seulement, Voltaire a traité, lui, évidemment, des autres civilisations. D'ailleurs, il commence pour l'Europe à Charlemagne, mais en fait, l'essai sur les mœurs commence avec la Chine. Donc, en réalité, c'est une façon, ce que personne n'a jamais fait, en Europe en tout cas. On n'a jamais commencé une histoire universelle par l'histoire de la Chine. Voltaire fait exprès de commencer par l'histoire de la Chine et de différentes autres civilisations avant d'en arriver à l'Europe pour montrer que l'Europe n'est pas la première civilisation, que les autres sont antérieures, étaient plus développées, etc., etc. D'autant plus qu'il n'a pas une grande affection pour la période médiévale, vous en doutez sans doute, période l'obscur Moyen-Âge, comme il dit, comme on disait beaucoup à l'époque, hein, période d'obscurantisme, en somme, entre l'Antiquité et les temps modernes qui ont vu la renaissance des principes antiques pré-chrétiens, ça a été 10 siècles d'obscurantisme. Et donc, Voltaire tient à marquer donc, cette minoration qu'il fait du règne de Charlemagne. Je reprends l'exposé sur Montesquieu. Voltaire nous dit, enfin, à propos de l'esprit des lois, il n'y a guère d'ouvrage où il y ait plus d'esprit, plus d'idées profondes, plus de choses hardies, où l'on trouve plus à s'instruire, soit en approuvant ses opinions, soit en les combattant. Ce que je disais tout à l'heure, donc, il y a toujours une petite nuance à la fin hein, qui vient dire que ça n'est pas parfait, mais en tout cas, c'est un ouvrage qui fait penser. Et puis, enfin, sur le personnage, il est mort en 1755 en philosophe comme il avait vécu. Et ça, on sait que c'est une phrase qui a été mise exprès, parce que beaucoup de bruits ont couru, et on a fait courir ça encore au 19e et encore au 20e siècle, sur un certain nombre de personnes qui étaient athées ou qui étaient francs-maçons, etc., disant que sur son lit de mort, les jésuites sont arrivés et l'ont converti. C'est ce qu'on a dit de Montesquieu, notamment. Ça a été, le bruit était répandu, et beaucoup de gens disent « Ah, vous voyez, même lui, qui avait écrit beaucoup de choses contre la religion, s'est finalement converti. » Il tient à dire que c'est faux, effectivement, on sait que ça n'a pas été le cas. Mais Voltaire, après cet éloge, critique et corrige Montesquieu. Je dis corrige parce qu'effectivement, il va s'attacher à reprendre des passages, à les réécrire, à dire ce qui ne va pas, et à dire voilà ce qu'il aurait dû dire, etc. Il dit dans une lettre à un ami journaliste, Linguet, en 1957, « Il y a beaucoup à reprendre dans l'esprit des lois. » Et il s'y attaque dans un certain nombre de ses ouvrages. Alors il y a notamment le Dictionnaire philosophique, Dictionnaire philosophique qu'il a publié à partir de 1764. Il y a eu ensuite les questions sous l'encyclopédie. Ce sont des ouvrages alphabétiques, avec des petits articles d'une page, une page et demie, sur tout un tas de sujets classés de façon alphabétique. Il a également publié, un peu plus tard, l'ABC en 1778, un colloque, une conversation entre A, B et C, dont Montesquieu est l'objet, en partie, de cette conversation. Et enfin, il a publié en 1777, un an avant sa mort à peine, un commentaire sur l'esprit des lois. Donc on peut dire qu'il y est revenu sans arrêt. Cet ouvrage, il l'a lu plusieurs fois certainement, en tout cas parcouru avec un crayon à la main plusieurs fois. Alors il relève des erreurs factuelles, carrément. Je ne donne que quelques exemples, mais il y en a une bonne cinquantaine au moins. Ça dépasse la cinquantaine. On n'est pas à 100, mais on est entre 50, 60, 70. Dans le dictionnaire philosophique, à l'article « Esprit des lois », il a consacré un article spécial à « Esprit des lois ». Et un des chapitres de cet article s'appelle « Des citations fausses dans l'esprit des lois ». Donc, il reproche à Montesquieu de mal citer des auteurs. Mais j'édite Voltaire, je ne suis pas le seul, hein, on est des dizaines à éditer Voltaire, je peux vous dire qu'on a tous trouvé aussi des erreurs dans la citation qu'a fait Voltaire. Volontaires ou pas, parfois des erreurs volontaires, des interpolations volontaires. Des citations fausses dans l'esprit des lois, des conséquences fausses que l'auteur en tire, et de plusieurs erreurs qu'il est important de découvrir. Donc ça vous annonce, alors ça se suit, hein, il dit ça, c'est faux, il dit ça, j'ai vérifié, c'est pas exactement ça qui avait été dit, etc. etc. Un exemple, le plus gros, parce qu'il revient plusieurs fois, Montesquieu s'est trompé jusqu'à dire que François Ier, qui n'était pas né lorsque Christophe Colomb découvrit l'Amérique, avait refusé les offres de Christophe Colomb. Bon, effectivement, c'est une fameuse erreur. Autre exemple, le dernier que je vous donnerai, l'auteur de l'Esprit des lois dit qu'il n'y a point de république en Asie. Cependant, 100 hordes de Tartares et des peuplades d'Arabes forment des républiques errantes. Il y eut autrefois des républiques florissantes et supérieures à celles de la Grèce, comme Tyr et Sidon. On n'en trouve plus de pareilles depuis leur chute. Les grands empires ont tout englouti. Le même auteur croit en voir une raison dans les vastes plaines de l'Asie. Il prétend que la liberté trouve plus d'asile dans les montagnes. mais il y a bien autant de pays montueux en Asie qu'en Europe. La Pologne, qui est une république, est un pays de plaine. Venise et la Hollande ne sont point hérissées de montagnes. Les Suisses sont libres, à la vérité, dans une partie des Alpes, mais leurs voisins sont assujettis dans l'autre partie des Alpes. Donc, il n'y a pas de lien entre les montagnes et la liberté, etc. Il est bien délicat de chercher des raisons physiques des gouvernements. Mais surtout, il ne faut pas chercher la raison de ce qui n'est point, conclut Voltaire. Alors, ces critiques, je vous l'ai dit, il les reprendra, il les confirmera. On retrouve, franchement, quand vous brassez les œuvres de Voltaire, vous pouvez retrouver des allusions à la même erreur deux fois, trois fois, parfois quatre fois. Évidemment, il les a repérées et il tient à les faire savoir, alors on les retrouve dans différents de ses ouvrages. Mais il y a aussi des désaccords de fond, et c'est ça là-dessus que je voudrais terminer, quelques désaccords majeurs. Alors, il y a un premier désaccord majeur que tout le monde connaît, enfin, chez les spécialistes, c'est la tarte à la crème, d'une certaine façon, un tout petit peu abordé ici déjà, c'est le problème du climat. Montesquieu a estimé que, comment dire, les civilisations, le type de civilisation qui se développait dans une contrée, dans une région du monde, était en rapport avec le climat, que la mentalité des hommes était en rapport avec le climat. Alors, vous savez, c'est des approximations un petit peu très simples que nous faisons tous. Hein, au sud, on est paresseux, au nord, on est courageux, etc. Alors, il paraît que ça se vérifie un tout petit peu. Bon, mais Montesquieu en a fait une véritable classification assez rigide, il faut bien le dire. Et Voltaire tient à montrer d'abord que Montesquieu n'est pas à l'origine de cette classification et de cette idée du climat comme loi des civilisations. Baudin, alors il s'agit de Jean Baudin, dont je vous ai indiqué le nom ici, qui est un juriste du XVIe siècle, français. Baudin, dans sa République, un des grands ouvrages de Jean Baudin, et dans sa méthode de l'histoire, c'est Voltaire qui parle ici, hein, dit que l'influence du climat est le principe du gouvernement des peuples et de leur religion. Donc, on est très proche de ce que dit Montesquieu. Diodore de Sicile, là on est dans l'Antiquité, fut de ce sentiment longtemps avant Baudin. Donc, aller dire que c'est Montesquieu qui a inventé cette idée est totalement faux pour Voltaire, l'auteur de l'Esprit des lois, sans citer personne. C'est peut-être ça évidemment l'erreur, c'est qu'il n'a pas dit qu'il reprenait une idée de Baudin ni une idée de Diodore de Sicile, il a fait croire que c'était la sienne, sans citer personne, poussa cette idée encore plus loin que les auteurs précédents. Et c'est pour ça, évidemment, qu'on lui a attribué cette idée, puisque lui en a fait un véritable système. Et Voltaire donne un point, j'ai pris un point parmi d'autres, parce qu'il y a des pages et des pages, c'est l'article « Climat » dans le dictionnaire philosophique qui fait plusieurs pages. J'ai pris un extrait que je vais vous citer, parce que je l'ai trouvé particulièrement intéressant et très typique de la méthode de Voltaire. « On pourrait demander à ceux qui soutiennent que l'atmosphère fait tout, pourquoi l'empereur Julien, donc empereur d'Antiquité, dit dans son Misopogone, c'est un ouvrage de l'empereur Julien, que ce qui lui plaisait dans les Parisiens, c'est la gravité de leur caractère et la sévérité de leurs mœurs. » Donc, autrefois, dans l'Antiquité, c'était la gravité de leur caractère, la sévérité de leurs mœurs. Et pourquoi ces Parisiens, sans que le climat ait changé, sont aujourd'hui des enfants badins à qui le gouvernement donne le fouet en riant, et qui eux-mêmes rient le moment d'après en chansonnant leurs précepteurs. Donc d'un côté, une description des Parisiens qui est plutôt austère, d'un autre côté, des Parisiens plutôt rigolards, enfin tels que, je dirais, on connaît encore en partie les Parisiens d'aujourd'hui, sans que le climat ait changé. C'est très bien trouvé, c'est très Voltaire, ce genre de choses. Il a le génie de percer à jour les contradictions et de suggérer au lecteur le rire ou le sourire, simplement en montrant une contradiction, en allant au bout du raisonnement, si vous voulez. Il pousse, et il fait ça très souvent, il pousse le raisonnement de l'adversaire jusqu'au bout, jusqu'à l'absurde. Et puis à ce moment-là, évidemment, on dit oui, ben, effectivement, c'est aberrant. Deuxième exemple, Cicéron plaisante beaucoup sur les Anglais dans ses lettres. Il prie Quintus, son frère, lieutenant de César, de lui demander s'il a trouvé de grands philosophes parmi eux dans l'expédition d'Angleterre. Les Anglais, à l'époque, ce sont les anglo-saxons, hein, des primitifs, quoi, voilà, c'est comme ça qu'ils les voient, des barbares. Il ne se doutait pas, Cicéron, qu'un jour, ce pays pût produire des mathématiciens qu'il n'aurait jamais pu comprendre. Et il y aura l'exemple fameux de Newton aussi. Hein. Bon, les Anglais, à ce moment-là, sont très forts du point de vue des sciences. Cependant, le climat n'a point changé. Et le ciel de Londres est tout aussi nébuleux qu'il était alors. Donc, rien à voir avec le climat. Tout change, conclut Voltaire, dans les corps et dans les esprits avec le temps. Pas avec le temps qu'il fait, mais avec le passage du temps. Hein. Peut-être, et alors là, je dois dire, quand j'ai lu ça, j'étais un peu stupéfait, parce que, bon, c'est pas de la divination, mais c'est assez, effectivement, assez incroyable. Peut-être un jour, les Américains viendront enseigner les arts au peuple de l'Europe. Bon, là, je pense que s'il était revenu au XXe siècle, le XXIe, il aurait sûrement été confirmé dans un certain nombre de choses. Le climat a quelques puissances, le gouvernement 100 fois plus. Et il ajoute, la religion jointe au gouvernement encore davantage. Donc, c'est une question de civilisation, d'évolution des mentalités, de direction que donnent effectivement les gouvernements à l'éducation, aux sciences, à la culture, et pas le climat, bien entendu. Ça nous paraît évident aujourd'hui, mais enfin, il faut dire que les idées de Montesquieu ont été discutées, il était quand même académicien, c'était pris au sérieux, hein. Je veux dire, c'était pas quelque chose sur lequel on blaguait, même si Voltaire a réussi à faire rire là-dessus, mais au départ, un certain nombre de gens ont pris ça très au sérieux. Parce qu'il donnait des arguments, effectivement, il y avait des différences, alors le tout c'est de savoir comment il s'explique. Deuxième élément après le climat sur lequel on peut estimer qu'il y a une divergence entre Montesquieu et Voltaire sur le fond, c'est lié un petit peu à cette question du climat et à l'esprit des lois dont je vous ai parlé, cette idée donc de Montesquieu selon laquelle les civilisations ont des institutions qui leur sont propres, à la fois parce qu'il y a le climat, mais aussi parce que les civilisations sont séparées d'une certaine façon, ne sont pas, et ce sont des thèses sur lesquelles on a encore discuté il n'y a pas très longtemps, hein, souvenez-vous des ouvrages à propos du choc des civilisations il y a une vingtaine d'années maintenant, qui expliquaient justement que les civilisations étaient incompatibles les unes avec les autres. C'est une idée qui est revenue périodiquement dans l'histoire. Mais Montesquieu a un peu cette idée-là, disant que chaque civilisation a sa personnalité, et donc qu'une expérience dans une civilisation n'est pas valable dans une autre. Voici ce que Voltaire dit dans un ouvrage qui s'appelle « Fragments sur l'Inde ». Oui, j'insiste sur le fait qu'il y a, je n'ai pas fait le calcul, mais on dépasse les 200 ouvrages de Voltaire. Donc, si on demande aux gens ce qu'ils connaissent, la plupart du temps, on n'arrive pas à dépasser la dizaine. Je parle même de gens instruits, je ne parle pas de gens dans la rue, mais globalement, c'est difficile de dépasser 10-12 ouvrages de Voltaire qu'on connaisse. Il en a écrit plus de... On est aux environs de 250. Donc il y a des tas de choses qu'il a écrites que vous ne connaissez pas. Il y a des tas de pamphlets qu'il a écrits à des moments précis, sous des pseudonymes. Il a eu plus d'une cinquantaine de pseudonymes. De façon à pouvoir publier ce qu'il avait envie de publier. Parfois, c'était très comique. Et alors, il répondait à un adversaire, soi-disant, qui était en fait lui-même. Enfin, bon, il s'est beaucoup amusé avec ce jeu de pseudonymes, effectivement. Ou alors, il démentait, on m'attribue cet horrible ouvrage, etc. Alors que nous savons aujourd'hui que c'était de lui, bien sûr. Mais il écrivait des lettres à des tas de gens pour faire croire. Donc, il écrivait disant, vous vous souvenez peut-être, si vous le savez exactement, mais Voltaire a donc passé à peu près 25 ans en exil. En exil, enfin, c'est beaucoup dire, il n'était pas très loin, il était beaucoup à Berlin pendant un moment, et puis s'est installé à Ciré, en Champagne, donc à la frontière à l'époque de la France, puisqu'on était près de la Lorraine, hein, il pouvait se réfugier directement en Lorraine s'il voulait, pays étranger. Ensuite, il s'est installé essentiellement à Genève et aux portes de Genève, à Ferney, qui était une espèce de zone frontalière, zone franche entre la France et Genève. Il pouvait donc se réfugier en France s'il avait des ennuis avec Genève, mais il en a eu un petit peu quand même pour le théâtre, mais il pouvait surtout se réfugier éventuellement à Genève ou ailleurs, en Suisse, s'il avait des ennuis avec la France. Donc depuis Ferney, il écrit sans arrêt, puisqu'il est quand même très loin de Paris, il est à plusieurs centaines, il est à 500 km de Paris à peu près. Donc il écrit, lorsqu'il a écrit un ouvrage sous pseudonyme qui fait scandale, qu'on lui attribue, pour donner le change, si vous voulez, il écrit pendant 3 jours, 10 lettres par jour à des tas de gens à Paris, à Bordeaux, à Reims, etc., pour dire « Vous vous rendez compte, on m'accuse de ça, mais enfin, c'est incroyable. J'espère que vous ne le croyez pas, au moins. Enfin, » Alors, il y en a qui sont dans le secret, qui comprennent très bien. Mais c'est une façon, si vous voulez, de faire croire qu'effectivement, c'est pas lui. Quoi. Donc, il a beaucoup joué avec ça. Alors, ici, un ouvrage donc peu connu, « Les fragments sur l'Inde et sur le général Lally, 1773. » On ne conçoit pas comment l'auteur de l'Esprit des lois a pu dire que la féodalité est un événement arrivé une fois dans le monde et qui n'arrivera peut-être jamais, qui arrivera peut-être jamais de nouveau, si vous voulez. Donc, phénomène spécifique à l'Europe médiévale, etc., d'après Montesquieu. Mais la féodalité n'est point un événement. Ça, c'est très Voltaire. La féodalité n'est point un événement. C'est une forme très ancienne qui subsiste dans les 3/4 de notre hémisphère avec des administrations différentes. Il essaye de retrouver le substrat de la féodalité, de dire, mais finalement, on retrouve ça dans différentes civilisations. Et alors là, un raccourci très voltairien, le grand mogol est semblable à l'empereur d'Allemagne. Bon, là, je pense comme historien qu'il pousse un peu. Mais si vous voulez, c'est pour montrer que finalement, le grand mogol et l'empereur d'Allemagne ont des traits communs, leur gouvernement se ressemble. Voilà. Et que donc, on ne peut pas faire de ce qu'il veut, c'est une race humaine unique. Voilà. Et donc, les hommes ne peuvent pas, ne sont pas fondamentalement et foncièrement différents en Inde de ce qu'ils sont en Allemagne. Deuxième exemple, commentaire sur l'Esprit des lois, ce fameux ouvrage de 1777, donc un an à peine avant sa mort. Très long ouvrage qui fait une bonne 60aine de pages. L'auteur s'imagine, toujours Montesquieu, ou veut faire croire qu'il n'y a dans la Chine qu'un despote et 150 millions d'esclaves, qu'on gouverne comme des animaux de basse-cour. Il oublie ce grand nombre de tribunaux subordonnés les uns aux autres. Il oublie que quand l'empereur voulut faire obtenir aux jésuites la permission d'enseigner leur christianisme, il dressa lui-même leur requête à un tribunal. Il adressa lui-même leur requête à un tribunal. Donc l'empereur n'est pas un despote puisqu'il s'adresse lui-même au tribunal. Je crois bien qu'il y a dans ce pays si singulier des préjugés ridicules, des jalousies de courtisans, des jalousies de corps, des jalousies de marchands, des jalousies d'auteurs, des cabales, des friponneries, des méchancetés de toute espèce, comme ailleurs. Mais nous ne pouvons en connaître les détails. Si Montesquieu veut nous persuader que les monarchies de l'Europe, établies par des Goths, des Gépides et des Alains, donc, des peuples barbares, sont fondées sur l'honneur, pourquoi alors veut-il ôter l'honneur à la Chine ? Façon de montrer que tout est pareil partout, que les structures sont les mêmes, sous des formes en apparence différentes, mais que fondamentalement, on retrouve les mêmes concepts, si vous voulez. Alors, pour conclure, j'ai, l'impression que j'ai eue, c'est que la relation est ambiguë. Vous l'avez déjà, je pense, un peu compris. Enfin, je vous ai guidé dans ce sens, mais ce serait difficile de faire autrement, parce que, croyez-moi, il n'y a pas grand-chose d'autre. J'ai pratiquement lu tout ce qu'ils ont dit l'un de l'autre, donc, et un peu ce qu'on a dit d'eux. Il n'y a en tout cas pas de sympathie, je pense une certaine antipathie. L'idée, le fait qu'il n'y ait pas de correspondance montre que le courant n'est pas passé du tout, mais pas du tout. Je pense qu'il y a eu de la morgue de l'aristocrate dans la façon dont Montesquieu parle de Voltaire. Manifestement, il est condescendant par rapport à ce bourgeois arriviste. Arriviste et en plus impertinent. Enfin bon, Voltaire ne lui a pas plu, manifestement ça a été réciproque. Mais il y a à la fois évidemment une admiration pour le génie, le brio de l'un et de l'autre, ça c'est tout à fait clair. Une estime aussi, et là il avait plus de temps pour le dire, de Voltaire pour le rôle de Montesquieu comme homme des Lumières, mais, curieusement d'ailleurs, un dénigrement réciproque pour la superficialité qu'ils s'attribuent l'un à l'autre de façon assez amusante. Il faut bien dire que cette superficialité n'est pas une accusation en l'air pour ce qui concerne Voltaire non plus. Montesquieu, vous avez vu, bon, il y a des erreurs de fait, hein, je vous dis, il y a une bonne cinquantaine, et Voltaire a raison, hein, les erreurs qu'il relève sont effectivement des erreurs, parfois énormes, comme l'histoire de François Ier et Christophe Colomb. Bon, mais dans l'essai sur les mœurs, par exemple, qui fait quand même 2000 pages, on a l'occasion d'aller chercher comment Voltaire a travaillé, d'où il s'est inspiré, etc. Il a un grand souci de ne pas être dupe, ça c'est tout à fait évident. Il analyse les témoignages à la loupe, il les soumet à la critique, et il essaye d'être vérifiable, d'être exact, mais il lui arrive de se tromper, en partie, pensons-nous, à cause de secrétaires, parce que généralement il fait travailler des secrétaires à sa place, donc on ne sait pas si c'est toujours lui qui a été chercher l'information, en partie par des recopiages mal faits, notamment lorsqu'il s'agit de chiffres. Ça, c'est la catastrophe pour essayer de... Quand il vous dit qu'il y avait 20 000 soldats, nous devons aller chercher où a-t-il trouvé 20 000 soldats. Alors vous tapez sur Google, puisqu'aujourd'hui tout est sur Google, pratiquement tous les livres de son époque sont dessus, 95%. Vous tapez 20 000 soldats, puis alors vous tombez sur des 20 000 soldats, mais qui n'ont rien à voir à d'autres moments, d'autres époques, etc. Et en fait, il y a eu une erreur de chiffre, et le Voltaire ou le copiste s'est trompé, c'était pas 20 000, c'était 120 000, et alors vous trouvez ça 3 heures après ou 4 heures après par hasard, etc. Et vous avez l'air très savant, en fait, vous l'avez trouvé par hasard. Voilà. En cherchant autre chose, parfois. Ça arrive assez souvent. Donc, on sait qu'il commettait beaucoup d'erreurs, et qu'il a lui-même falsifié un certain nombre de textes en omettant. La plupart du temps, il n'ajoute pas des choses, mais les passages qui l'intéressent pas, il les supprime, et donc il donne une impression fausse, puisqu'il supprime une partie du raisonnement, une partie de l'argumentation de l'adversaire. Ce qu'il en est pour nous aujourd'hui. En grande partie, ils sont l'un et l'autre, ils combattent l'un et l'autre, l'arbitraire et l'intolérance. Le ton de Montesquieu est manifestement plus modéré, ça c'est tout à fait évident. Ça tient... Je pense plus au personnage qu'à l'époque, à vrai dire. Je pense quand même que Voltaire était déjà impertinent à 25 ans, ou même avant, tandis que Montesquieu était manifestement quelqu'un qui ne voulait pas faire d'éclat, si vous voulez. Donc ça, c'est évident que c'est une question de caractère. Deuxième élément, il y a un désaccord fondamental dont je n'ai pas eu le temps de parler ici. J'en ai pas parlé parce que c'est la tarte à la crème qu'on enseigne à tous les étudiants d'histoire, donc je veux bien revenir faire une conférence là-dessus si vous voulez, mais j'ai pas le temps évidemment ce soir, ça nous aurait pris 2 heures. Montesquieu est partisan de l'équilibre des pouvoirs, hein, je vous l'ai dit, dans l'esprit des lois, les trois pouvoirs, aucun ne peut influer sur l'autre. C'est d'ailleurs par exemple ce qui se passe aux États-Unis de façon tout à fait claire, où le président ne peut absolument pas intervenir sur la justice, par contre la justice est totalement indépendante et peut éventuellement aller à l'encontre de ce que veut le pouvoir exécutif, etc. Voltaire n'est pas partisan d'un équilibre des pouvoirs, il est plutôt partisan, mais là il est partisan du despotisme éclairé. Il est partisan d'un souverain qui s'entoure de conseillers éclairés, notamment lui-même. Ça a été le cas de Frédéric II, c'est le cas en partie de Catherine II avec Diderot, mais ça n'a pas été un grand succès, ni d'ailleurs Voltaire avec Frédéric II. C'est pour lui le régime le plus abouti, dans la mesure où, estime-t-il, les populations de son époque ne sont pas suffisamment éduquées pour pouvoir s'occuper de politique, pour être très simple. Donc, il estime que le despotisme éclairé est le meilleur des régimes. Ce n'est pas l'avis de Montesquieu. Montesquieu est plus favorable à un régime de type parlementaire, comme en Angleterre. Et alors on trouve cette phrase étonnante, je termine par ça, qui m'a fait sursauter dans une lettre de Voltaire à Bernard-Joseph Saurin, qui était un auteur de théâtre d'ailleurs, pas grand-chose à voir avec la politique, mais qui est devenu académicien, en 1769. Il compare avec l'esprit des lois, donc cet ouvrage quand même médité par Montesquieu pendant des années, qui est une espèce de sommet de sa carrière, le magistrat qui après une carrière courte, mais après avoir beaucoup réfléchi, disons, au droit, écrit une espèce de manuel général. Voilà ce qu'il dit. « J'aime mieux l'instruction donnée par l'impératrice de Russie pour la réduction de son code. » Catherine II avait voulu changer le code de loi de la Russie. Et voilà la raison pour laquelle il le préfère. « Cela est net, précis. » Et il n'y a point de contradiction ni de fausse citation. Ça montre quand même un esprit relativement polémique d'un côté, polémique et superficiel aussi. Hein, parce que bon, et on sait d'ailleurs que ce code, il était parfait en théorie, il n'a jamais été appliqué. Enfin bon, il y a un côté quand même assez étonnant. Et je conclurai en disant que Montesquieu était malgré tout, et ça me peine de le dire, parce que je préfère Voltaire à titre de personne, il m'intéresse plus, était plus moderne que Voltaire, en réalité. Montesquieu était certainement en politique plus porteur d'avenir que Voltaire, puisque les régimes démocratiques parlementaires que nous connaissons, qui se sont développés un peu partout, c'est quand même beaucoup plus proche des théories de Montesquieu que de celles de Voltaire, qui n'était absolument pas prêt à ce genre de régime. Voltaire reste un homme d'ancien régime, et c'est ce que je dis toujours dans des cours, le despotisme éclairé, c'est le plus loin qu'on puisse aller dans l'Ancien Régime, si vous voulez, en conservant la monarchie absolue, avec un souverain qui décide de tout, mais un souverain éclairé. Voilà. Et donc, là, ça va. Plus loin que ça, n'oubliez pas que Voltaire parle du peuple en disant la populace, très souvent. Hein. Il veut dire les gens non éduqués ou mal éduqués, pas instruits. Voilà. Et il fait une différence entre ces gens-là et tous les autres. Pour la religion aussi, la religion pour le peuple, c'est très bien, il le dit carrément. Quand il, et je termine par cette phrase, j'espère que je suis dans les temps, quand il est à Ferney, il devient comte de Ferney, il faut quand même le dire. Donc, il se fait donner, enfin, c'est une seigneurie. Donc, il prend le titre, il a une petite armée de 10 ou 15 personnes qui font la revue, enfin, c'est un peu risible. Il a des paysans, il met en route des entreprises de soierie, de verrerie, etc. Il fait arriver des colons, et donc, il veut mettre en valeur ses terres. Et il écrit à des amis, je ne sais plus si c'est à Paris, je ne suis pas sûr que c'est à Paris, mais il écrit à un ami en particulier, je me souviens d'avoir lu cette lettre, ça m'avait fait sursauter, pour lui demander de lui envoyer des colons des paysans. « Envoyez-nous des bras, nous n'avons que faire de tête. » Voilà. Et je conclurai par ça. Donc, nuance sur le personnage de Voltaire, philosophe. Merci beaucoup.
Je remercie aussi Bruno Bernard pour nous avoir présenté une approche tout à fait originale, puisqu'il n'y a rien sur la relation et sur le rapport entre Voltaire et Montesquieu. Il nous a aussi montré deux hommes qui sont de grands esprits, mais qui ont des petits côtés, des petits travers, mais qui, malgré tout, les démontrent avec beaucoup de panache.
Ah oui.
Ce qui les différencie sans doute quand même du commun des mortels. Je vous propose immédiatement de poser des questions ou de faire des commentaires.
Oui, bonjour. C'est une question un peu en dehors du thème général, mais Montesquieu et Voltaire anticléricaux, Montesquieu et ou Voltaire libre penseur, Montesquieu et ou Voltaire athée, point d'interrogation.
Ah, athée, certainement pas. Non, déiste. Déiste. Donc, Voltaire détestait notamment les athées, mais Montesquieu aussi. Donc, l'idée n'est pas d'être athée, l'idée est, si vous voulez, de se dégager de ce qu'ils appelaient la superstition. C'est le terme qu'on emploie à l'époque. Et aujourd'hui, évidemment, si vous dites « je vais à l'église », personne ne va vous dire « c'est de la superstition ». Enfin, peu de gens vous diront « c'est de la superstition ». Mais c'est ça qu'ils entendent par la superstition, c'est la croyance non raisonnée, disons. Hein, le simple fait de croire parce qu'on vous l'a dit, voilà, sans vérifier, entre guillemets. Un peu difficile à vérifier. Enfin, en tout cas, donc, leur idée est simplement qu'il y a en tout cas un créateur, mais que le culte qui lui est rendu doit être simplifié à l'extrême. Donc, le remerciement à la divinité pour avoir créé l'univers, et ça s'arrête là. La morale, toutes ces choses-là sont des choses humaines, sont des créations humaines. Donc, Dieu n'a pas donné de message. Donc, c'est un culte de reconnaissance, je dirais, à simplement ce créateur. Donc, athée, certainement pas. Non. Il y a une phrase de Voltaire, je ne me souviens pas, « les athées stupides ». J'ai oublié le reste de la phrase, mais ça se termine par les...
Anderson.
Pardon ?
C'est Anderson.
Oui, et ben il reprend tout à fait ça, les athées stupides. Oui, tout à fait. Oui, oui.
L'athée stupide et le stupide athée, enfin, ça voilà. C'est un peu un peu jeu de mots. Mais bon, vous avez terminé votre conférence en faisant certaines réserves sur Voltaire, réserves que je partage tout à fait. Je ne vais pas vous énumérer les ouvrages de Voltaire que j'ai lus, mais enfin, j'en ai quand même lu quelques-uns, jusqu'au moment où je suis arrivé à celui dont on parle le plus, et vous en avez parlé également, son dictionnaire philosophique. Bien. Alors, ce qui, moi, m'éloigne de Voltaire et qui m'empêche d'aller plus loin dans Voltaire, c'est son comportement vis-à-vis des Juifs. Donc, à partir de ce moment-là, je ne peux plus manifester, je dirais,
sympathie.
La sympathie, et je dirais même de l'intérêt. Parce que c'est primitif. C'est non seulement primitif, mais c'est depuis la première ligne, puisque vous prenez dans le dictionnaire philosophique Abraham, hein, et vous avez lire un petit paragraphe qui se réfère au juif, mais ça va même tellement loin que ce que vous donnez à vos étudiants à lire a été expurgé. Parce qu'il y a un paragraphe entier qui ne s'y trouve pas.
Ce que moi je donne.
Pardon ?
Ce que moi je donne à mes étudiants.
Je ne sais pas, quand vous leur dites, c'est pas une façon de parler, quand vous leur dites de lire le dictionnaire philosophique, hein, vous avez toutes les rubriques du dictionnaire philosophique, il y a une qui... Je parle de Flammarion, hein, je parle
d'une édition moderne.
Mais attention,
complète,
édition moderne qui dit texte intégral.
Oui. Hein.
Or là, toute la rubrique juive n'est pas reprise. Or, elle est très importante.
Ah oui, je l'ai chez moi. Cette,
vous l'avez aussi, donc moi j'ai aussi. Donc, ouais. Je veux dire par là qu'il y a, on expurge le texte. On dirait même que ceux qui sont des défenseurs de Voltaire sont un peu honteux d'en parler.
C'est évident. Que...
Et c'est pour ça qu'on n'en parle pas. Parce que j'ai maintenant beaucoup de conférences.
Entre spécialistes, on en parle. Hein, entre
pardon
nous, entre spécialistes,
ah,
c'est
oui,
connu.
D'accord,
c'est
d'accord.
Tout à fait connu.
Oui.
Mais ce n'est pas évidemment l'image qu'on répand dans le grand public. Ça, c'est
oui,
tout
oui.
À fait vrai.
Mais j'ai assisté à plusieurs conférences sur Voltaire. Jamais on en a parlé. C'est toujours moi qui ai dû faire la remarque, finalement.
Merci.
Voilà.
Mais il a raison, enfin, c'est tout à fait exact. Et il partage l'antisémitisme le plus... qui est courant à son époque et qui est... il le partage et il la croit même à la limite. Hein. Il en rajoute, je dirais, à certains moments dans la haine pour le juif et aussi pour finalement les créateurs du judéo-christianisme. Hein. Jésus était un juif, etc. etc. Donc on peut sentir un certain antisémitisme qu'il a pratiqué personnellement. Il a eu à Berlin, lorsqu'il était chez Frédéric II, un ennui avec un banquier forcément juif à qui il avait prêté de l'argent et qui, soi-disant, a été dilapidé, etc. Et donc, à partir de là, il était encore plus remonté. Mais il était déjà avant, il n'avait pas besoin de ça. Mais il a tout de suite mis ça, évidemment, sur le compte. Ah oui, bien entendu. C'était pas étonnant. Voilà. Donc, c'est tout à fait exact. C'était pas l'objet du sujet ici, mais... si on m'avait dit de faire une conférence sur Voltaire et les Juifs, il y a moyen d'en faire une. Hein. Ça, c'est tout à fait faisable.
D'autres questions ?
Nous avons eu une conférence il y a 2-3 ans sur Voltaire où il était question de l'affaire Calas. Est-ce que vous avez des réactions de Montesquieu par rapport à cette cause ? Bon, d'autre part...
Mais Montesquieu était mort.
Pardon ? Ah oui, voilà. D'accord.
C'est ça le problème, c'est que Montesquieu est mort en 55 et l'affaire Calas c'est 68, je pense.
Un petit peu, mais... Bon, et alors, ce que je retire, parce que vous savez, avec le temps, c'est que finalement, Voltaire avançait des positions et puis il se ménageait toujours d'autres positions de repli parce qu'il y avait toujours derrière l'acquisition. Bon, par rapport à l'acquisition. Quelles ont été les réactions à la fois de Voltaire et de Montesquieu?
Opposés l'un et l'autre, totalement opposés à la persécution. Encore plus chez Voltaire, puisqu'il a eu l'occasion de mener ce qu'il a appelé le combat contre l'infâme. Il y a eu toute une période où il a signé ses lettres ECR, E-C-R, l'infâme. C'était pour les initiés, écraser l'infâme. Et l'infâme, c'était l'Église catholique, persécutrice. Donc, ils sont l'un et l'autre totalement opposés. Et c'est une des choses que Voltaire apprécie chez Montesquieu. Hein, c'est cette lutte contre le despotisme et l'intolérance. Là-dessus, ils sont parfaitement d'accord. Je ne pense pas qu'il y avait de désaccord à ce sujet du tout.
D'autres questions ou interventions ?
Mais si vous voulez, Montesquieu n'a pas eu l'occasion de mener une campagne. Voilà, c'est ça. La différence entre les deux personnages... C'est la période, Voltaire s'est trouvé avec des affaires, comme vous le dites. Ces affaires, on ne les a pas vues avant, ou en tout cas, elles n'ont pas été montées en épingle avant les années 60.
Oui, ma question, enfin, c'est plutôt un commentaire. Je ne connais pas Montesquieu, je n'ai jamais rien lu de Montesquieu, en réalité, complètement, et spécialement pas l'esprit des lois. Mais quand je les ai bien compris, dans l'esprit des lois, vous avez cité que donc Montesquieu signale que les mentalités sont fonction du climat. Enfin, ce n'est pas un pré-matérialiste ou un pré-marxiste, parce que c'est une manière d'expliquer l'idéologie en fonction de conditions, géographiques, économiques. Ou non, c'est assez...
C'est pas un pré-marxiste, non, franchement pas.
Non, mais...
non.
Bon, Marx expliquait l'idéologie en fonction de conditions économiques extérieures.
Voilà.
Donc, pas... Marx n'est pas un idéaliste. Donc, dans le sens idéaliste par rapport à matérialiste. Enfin, donc, c'est votre réflexion
Je sais pas si on peut qualifier Montesquieu de matérialiste. Peut-être que la philosophe pourrait nous dire ce qu'elle en pense, mais... Moi, j'ai pas l'impression qu'on peut aller jusque-là. Hein. Ça me paraît plutôt une théorie d'anthropologie dans laquelle il fait intervenir le climat, la nature. Voilà. Je pense que c'est plutôt l'idée de se rapprocher d'une explication naturelle des choses. Mais il n'y a pas, en tout cas, d'approche qui soit marxisante en aucune façon. Ou pré-marxisante. Marx ne s'est pas référé, d'ailleurs. Hein.
Alors, dernière question concernant les conceptions religieuses de Montesquieu. Vous avez parlé Voltaire déiste, ça c'est bien connu. Mais concernant Montesquieu, est-ce qu'il était aussi déiste ou
On n'a pas des choses extrêmement précises sur sa croyance, mais il était probablement lui aussi déiste, oui. Oui, tout à fait. Il n'y a pas d'autre... Il n'était pas athée et il n'était certainement pas un catholique fidèle au message de l'Église et en tout cas pas du tout proche de ce qui se passait à Rome ni d'aucun courant catholique dissident, etc. Donc il est effectivement, c'est un philosophe déiste, oui, aussi. Même s'ils n'ont pas pu échanger là-dessus, hein, ça c'est évident. Et c'est une des raisons pour lesquelles Voltaire appréciait les sous-entendus de l'esprit des lois ou des œuvres de Montesquieu, parce que Montesquieu admire les Romains, donc là aussi, il y a la volonté d'aller au-delà de l'ère chrétienne. Là-dessus, ils sont parfaitement d'accord, hein, sur la décadence qu'a entraîné l'arrivée du christianisme.
Oui, je suis tout à fait profane dans le domaine, mais je voudrais savoir si ces deux auteurs se sont exprimés sur l'esclavage et la traite des Noirs.
Absolument, oui, c'est un point d'accord entre eux. Oui, tout à fait. Alors, bon, il y a toujours la chose qu'il faut dire, alors... On parle des juifs, mais il y a aussi autre chose sur l'esclavage qu'on peut dire et qu'il faut dire, qu'on cite toujours. Bon, Voltaire, effectivement, se prononce tout à fait contre l'esclavage, puisqu'il y a une race humaine et donc il n'y a pas de raison de traiter d'autres individus différemment des Européens. Mais on sait que Voltaire a mis une partie de son argent, pas la totalité, mais une partie de son argent sur des bateaux négriers. Voilà, donc... Je le dis parce qu'on le dit tout le temps, que c'est vrai, ça n'entame pas la valeur des idées, mais enfin, bon, voilà, il faut le savoir. Donc c'est pour ça que je présente le personnage avec un certain nombre de nuances. Il n'est pas toujours sympathique, je peux vous dire qu'au détour, quand on est en train de l'éditer, au détour d'une page, parfois, mes collègues ou moi, on a les mêmes réactions, on se dit, mais enfin, il y a des moments où c'est presque choquant. Hein, il y a une certaine malhonnêteté à certains moments dans la démarche, parce que nous sommes dans les coulisses. Donc on lit toutes les lettres qu'il écrit le même jour. À des personnes qui, évidemment, n'ont jamais lu les autres lettres. Et là, vous découvrez l'hypocrisie totale. Et dans la façon dont il écrit ses textes, ce qu'il prend, ce qu'il ne prend pas, ce qui l'intéresse, ce qui n'intéresse pas, c'est parfois amusant, d'ailleurs, parce qu'on sait d'avance ce qu'il ne va pas prendre. Hein, donc vous retrouvez la source, par chance, parce qu'il n'en dit presque jamais, vous retrouvez la source qu'il a utilisée. Ah tiens, oui, ce paragraphe-là, évidemment, il est passé dessus parce qu'il y avait quelque chose qui ne lui plaisait pas. Et donc, il ne l'a pas repris. Donc, personnage un peu ambivalent, quoi, mais passionnant. Ça, c'est certain. Et puis, l'homme est admirable. Hein, le parcours qu'il a fait, la santé qu'il avait, entre guillemets, à son âge, d'écrire autant de choses, le nombre de livres qu'il a pu lire, sur lesquels il est revenu comme ça, comme l'Esprit des lois, comment est-ce qu'on peut lire deux ou trois fois l'Esprit des lois en prenant des notes, mais quand est-ce qu'il dormait, on se demande. C'est effrayant.
Est-ce que cette idée de rester... de prendre une certaine distance par rapport au texte qu'il étudie et ne pas suivre l'exactitude, ce n'est pas plutôt une idée qui arrive à partir du XIXe siècle. Au XVIIe, par exemple, c'est tout à fait normal de se servir des auteurs pour penser. Et on n'a pas l'idée d'une exactitude historique que l'on doit revenir. Est-ce qu'on n'a pas quelque chose du même ordre chez Voltaire qui... Et ça ne veut pas dire que ce n'est pas un défaut, mais c'est l'air du temps.
Ce qui est un peu choquant chez Voltaire par rapport à d'autres auteurs de son temps, et même parfois aux auteurs qu'il utilise, qui eux sont du XVIIe souvent, fin XVIIe, il y a beaucoup d'auteurs de deuxième moitié XVIIe qui prend comme source pour cet ouvrage historique, c'est que eux donnent leur source. Vous avez en marge, en manchette, comme on dit, en abrégé, le nom de l'auteur ou le début du titre, et comme il n'y a pas des centaines de titres et tout le monde connaît les mêmes, donc il suffit de citer. Alors nous, évidemment, ça nous pose parfois des problèmes, parce qu'ils citent ça en abrégé, et débrouillez-vous. Mais eux, ils comprenaient, évidemment. Trois lettres ici, trois lettres par là, et ils voyaient de quoi il s'agissait. Voltaire ne le fait jamais. Sauf quand il contredit quelqu'un. Ou bien en disant, contrairement, un tel s'est trompé en disant ceci, ou bien, comme le dit un tel, mais ça c'est toutes les 100 pages, je n'exagère pas. Hein. Vous avez ça sur 10 chapitres, vous avez ça une fois ou deux au grand maximum. Le reste du temps, débrouillez-vous pour trouver comment il a travaillé. Alors on finit par savoir. Alors il y a sa bibliothèque d'un côté qui nous permet de... Mais alors la bibliothèque, on ne sait pas toujours quand il avait les ouvrages. Or, on sait quand il a écrit le chapitre. Oui, mais avait-il l'ouvrage à ce moment-là? Comment le savoir? Comment le prouver? Bon, parfois les formules sont tellement proches qu'on se dit il a décalqué, c'est évident, ça ne peut être qu'un tel, puisqu'il a vraiment... Parfois, il fait des compilations de trois auteurs ou quatre auteurs dans un même paragraphe. Alors, il prend un détail chez l'un, un autre détail chez l'autre. Alors, on retrouve, hein, c'est assez amusant, parce qu'on arrive à retrouver effectivement la façon dont il a réussi à faire la synthèse. Et c'est un très bon... Il aurait été un bon journaliste, entre guillemets, parce qu'il a l'esprit de présentation, de mise en œuvre des choses. Donc, je pense que le souci d'exactitude... Alors, il n'y a pas de droit d'auteur. Ça, c'est une première chose. Donc, il peut dire ce qu'il veut. On ne se gêne pas, d'ailleurs, pour faire la même chose avec lui. Prendre des extraits de ses œuvres, même qu'on traficote et auxquels on ajoute éventuellement des passages, qu'on publie. Alors, il a beau écrire des lettres à tout le monde, disant « c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi », mais c'est fait. C'est sorti. Et donc après, il se dépêche de publier la vraie version. Et là, on sait que c'est vrai, hein, il a été piraté. Donc les gens font de l'argent avec des textes pris par un secrétaire, un valet de chambre qui les revend, etc. Et donc ça paraît à Amsterdam trois semaines après, et Voltaire est tout stupéfait. Donc il y a ce problème qui est qu'il n'y a pas de moyen de se protéger contre la copie frauduleuse. Donc effectivement, l'esprit d'exactitude, comme tu dis, ben, il est difficile à défendre. Mais par ailleurs, chez Voltaire lui-même, il y a moins le souci que les universitaires, entre guillemets, ou les savants, les doctes, qu'il méprise totalement. Il faut bien le dire. Nous voyons un certain nombre d'ouvrages qu'il utilise, et on trouve de temps en temps des petites notations où on est sûr. Alors on dit, ben oui, il a bien utilisé en effet un tel et un tel, Daniel, notamment le père Daniel de l'histoire de France, et puis, j'ai oublié qui, m'ennuie. Comment peut-on écrire des pages pour raconter quelque chose qu'on peut dire en un paragraphe? Voilà. Mais eux, ce sont des érudits. Ce sont des érudits. Donc ils vont au fond des choses et ils mettent toutes les nuances, etc. Voltaire a horreur de ça. L'essentiel, c'est la leçon qu'on va faire passer. Le message qu'il faut faire passer dans son ouvrage. Ça, c'est évident. Il a un but. L'ouvrage est polémique, en fait. Il prétend que c'est une histoire universelle, mais... Oui, tout s'y trouve à peu près, tous les événements sont racontés, mais alors le but c'est toujours de guider le lecteur vers une certaine conclusion. Ça c'est tout à fait clair. Donc l'érudition pour l'érudition, ça n'intéresse pas du tout. Il le dit, moi je relève chaque fois quand je trouve dans des lettres ou dans des extraits ce genre de passage, parce que lorsqu'on fera le volume introductif qui paraîtra après le dernier, le huitième, après avoir... On ne peut pas faire l'introduction tant qu'on n'a pas publié le reste, finalement. Hein. Donc, c'est quand on aura tout publié qu'on fera l'introduction. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Je garde tout ça pour le volume introductif, pour expliquer comment il a travaillé, dans quel esprit. Et donc, son esprit, c'est effectivement l'esprit polémique et le message à faire passer. Donc, tout est subordonné à ça. À partir de là, forcément, lorsque quelque chose va à l'encontre du message, on évite, quoi. On passe à côté. Et comme on ne cite jamais ses sources... Mais jamais, hein. Il n'y a pas une seule fois en marge le nom d'un auteur. Sauf, je vous dis, quand il adore cet auteur et qu'il veut dire qu'il a bien raison de dire ça, alors il va dans son sens à lui, évidemment, il n'y a pas de problème, ou bien il critique un autre auteur. Mais ça évite qu'on aille chercher, évidemment. Il n'y a que nous, 250 ans après, ou 300 ans après presque, qui nous amusons à aller chercher. Et personne ne le refera plus jamais. C'est ce qu'on m'a dit à la Voltaire Foundation. J'ai dit c'est pour 100 ans. C'est pour beaucoup plus que 100 ans, mais personne ne refera ça. C'est évident.
Une dernière question. Dans ce cas, je remercie encore Bruno Bernard pour ce portrait tout en nuances de ces deux grands hommes.
Merci à vous.